Le président a essayé de réévaluer la situation du fait qu'il y a une pression de la communauté internationale très importante sur son régime et que de plus en plus, il apparaissait que c'était lui qui devenait un blocage à l'application des accords de paix qui ont été signés l'année dernière. Il espère non pas se priver de ses soutiens au niveau international, mais aussi, je pense aussi, de gagner du temps par rapport à ses adversaires.
Entre Salva Kiir et Riek Machar, à qui incombe justement la non-application de cet accord de paix de 2015?
C'est des deux côtés, puisque plusieurs points qui concernent la majorité, donc le régime en place, n'ont pas été mis en application. Et d'autre part aussi, l'ancien vice-président, et qui maintenant devient avec un mouvement rebelle, il y a des prises de position et d'engagement qui n'ont pas été tenus par l'ancien vice-président, dont notamment le désarmement et l'intégration des miliciens dans la nouvelle armée sud-soudanaise. Chacun des deux partis pense toujours pouvoir avoir l'ascendant militaire sur l'autre partie. C'est-à-dire que l'option militaire prime toujours sur, malheureusement, sur l'option de négociation et sur l'option de la paix. Deuxième facteur, c'est lié à un facteur ethnique où nous avons deux grandes ethnies qui essayent, dans la mesure du possible, de pouvoir avoir l'ascendant et avoir le monopole du pouvoir à Djouba.
Quelle est la position de l'Ouganda dans ce conflit sud-soudanais?
L'Ouganda est le point d'appui de la politique américaine vis-à-vis du Sud-Soudan, c'est-à-dire que toute la politique américaine se focalise essentiellement sur l'Ouganda pour pouvoir arriver à amener les différentes parties à pouvoir dialoguer et arriver à un accord de paix, que l'accord de paix puisse être mis en œuvre. De l'autre côté aussi, l'Ouganda doit s'impliquer dans ce conflit pour la bonne et simple raison qu'il est le premier pays où la plupart des réfugiés vont lorsque les violences s'accentuent au Sud-Soudan.